Plus de la moitié de la population serait aujourd'hui bilingue ou multilingue. Outre le fait de pouvoir communiquer avec des gens partout dans le monde, les études scientifiques montrent aussi que le bilinguisme est bon pour le cerveau. Les enfants parlant deux langues développeraient des capacités cognitives plus importantes. Le bilinguisme permettrait aux enfants d'être plus attentifs et concentrés. Il faciliterait l'adaptation et retarderait même l'apparition des maladies mentales. C'est le dossier dans un instant avec mon invité, la psycholinguiste Ranka Bijeljak-Babic, et j'attends dès maintenant toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une initiative citoyenne contre un pesticide.
Oui, une quarantaine d'ONG et d'associations européennes s'unissent contre le désherbant à base de glyphosate et tentent de recueillir 1 million de signatures nécessaires pour valider la procédure. On en discute avec Nadine Lauverja de l'association Génération Future.
Et c'est Céline Hila qui réalise aujourd'hui toute la semaine cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Pierre Dessertaine.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, l'enfant bilingue. Ce sera donc le dossier de l'émission dans quelques instants avec mon invité, donc la psycholinguiste Ranka Bijeljak-Babic. Bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que être bilingue, c'est vraiment meilleur pour le cerveau et pour la construction de l'enfant?
En tout cas, pour dire en quelques mots, c'est pas mauvais, ni néfaste, ni handicapant pour le développement cognitif, mental et scolaire des enfants.
Et c'est plutôt mieux que meilleur d'ailleurs. Beaucoup d'études, on le verra, étudient justement le bilinguisme comme vous d'ailleurs. On va en discuter avec les auditeurs et les messages. Beaucoup de témoignages aussi peut-être pour vous dans quelques instants, avec donc l'adresse pour nous rejoindre, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et c'est le long combat des citoyens européens contre le glyphosate qui est aujourd'hui à la une de la science.
Alors c'est bien du Roundup.
Ça c'est du nouveau.
Mais je vois sur celui-là, il y a marqué biodégradable.
Ça c'est l'ancien. Maintenant il ne marque plus biodégradable. Donc ça ne doit plus être biodégradable, c'est le même produit. C'est parce qu'ils ne doivent plus avoir le droit de le marquer, ça ne doit pas être vraiment biodégradable.
Utilisé selon le mode d'emploi, Roundup ne présente pas de risque particulier pour l'homme, les animaux domestiques et leur environnement.
Voilà un extrait du documentaire de Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto, sorti en 2008 et 9 ans plus tard. Nous voici donc dans ce qui sera peut-être la dernière année d'autorisation pour ce glyphosate, ce désherbant qui cristallise aujourd'hui les combats écologiques depuis plus de 20 ans avec une initiative citoyenne, procédure légale, qui invite donc la Commission européenne à légiférer et qui vient d'être lancée par une quarantaine d'associations. Le but est de recueillir, on le vous le disait tout à l'heure, 1 million de signatures d'ici la fin de l'année. Nadine Lauverja, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes coordinatrice de l'association Génération Future qui participe justement à ce mouvement. Et avec nous en studio comme tous les lundis avec reporter.net, Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors ce combat des associations Hervé et des citoyens contre le glyphosate, c'est une véritable saga, presque une épopée. Depuis combien de temps maintenant dure-t-il?
Eh bien en fait ça remonte à 1950. C'est l'année où un chimiste suisse, Henri Martin, découvre une molécule, la N-phosphométhylglycine. Le problème c'est qu'il ne sait pas à quoi ça sert. 20 ans plus tard, vers 1970, le chimiste John France, qui travaille chez Monsanto, découvre que le N-phosphonométhylglycine a une utilité comme herbicide et Monsanto va le breveter sous le nom de Roundup en 1974 et commencer à le commercialiser. Comme c'est un herbicide facile à utiliser et très efficace, il rencontre un grand succès commercial et il va connaître une nouvelle vie avec les OGM, les organismes génétiquement modifiés à partir de 1996, puisque Monsanto lance des plantes résistantes au Roundup. En 2011, 650 000 tonnes de ce pesticide ont été ainsi vendues dans le monde. Mais à partir des années 2000, les études scientifiques ont commencé à s'accumuler, montrant qu'il y avait une nocivité probable, voire certaine, du Roundup et de son principal composant, donc le glyphosate.
Ouais.
En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé le glyphosate comme cancérogène probable pour l'homme. Il y a eu des débats scientifiques, une bataille réglementaire aussi. Et comme l'autorisation européenne qui avait été accordée en 2002 au glyphosate expirait en 2016, le glyphosate a failli ne pas être reconduit, mais la Commission a choisi de prolonger son autorisation pendant 18 mois, donc jusqu'à la fin 2017. Et c'est dans ce contexte que les associations veulent peser par cette initiative citoyenne européenne.
Alors Nadine Lauverja, le glyphosate, il est déjà en sursis d'un point de vue de la Commission européenne parce qu'il a été réautorisé pour 18 mois temporairement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la situation actuelle ?
Oui, alors ça, c'était déjà une forme de victoire, parce qu'en effet, à l'époque, au moment où le glyphosate était revenu sur la table, et au moment où, d'ailleurs, la décision, en effet, du CIRC de le classer comme cancérogène probable tombe, les industriels escomptaient certainement obtenir l'autorisation assez facilement pour 14 années supplémentaires, et la levée de bouclier, j'ai envie de dire, à la fois déjà à ce moment-là de la société civile, mais aussi d'un certain nombre de scientifiques, a fait que les votes ont été plusieurs fois repoussés et les États membres n'ont pas d'ailleurs réussi à se mettre d'accord sur cette réautorisation pour 14 ans. Il y avait déjà eu un premier vote où ça avait été rabaissé et donc là on est tombé sur 18 mois, ce qui était déjà une forme de victoire, mais pas suffisante évidemment pour les associations, hein, qui veulent carrément son retrait évidemment. Mais malgré tout, voilà, on a obtenu 18 mois avec cette position et cet avis de l'ECHA, donc l'autorité européenne qui statue sur les substances chimiques, qui doit tomber à l'automne, en début de l'automne. Et puis et donc à ce moment-là, de nouveau, il y aura un vote à la fois des États membres et sur la proposition que la Commission fera à l'automne.
Alors que comptez-vous demander à la Commission européenne si ce recours qu'est l'ICE, Initiative Citoyenne Européenne, allait au bout du million de signatures? Qu'est-ce qui encadre vraiment ce genre de recours?
Alors, notre ICE, celle que nous avons déposée à plusieurs, contient la demande d'interdiction en fait du glyphosate sur la base des études d'ailleurs qui confirment sa cancérogénéité. Pardon. Dans le cadre du règlement européen, d'ailleurs, ce classement cancérogène par le CIRC devrait suffire normalement à le faire retirer du marché. Mais elle va plus loin, l'ICE, elle demande aussi une remise à plat de l'homologation et de la mise sur le marché des pesticides, notamment en incluant les études scientifiques qui ne sont pas toujours prises en compte, parce qu'on se base, vous savez, sur les études industrielles qui d'ailleurs sont souvent assez secrètes, on n'arrive pas à obtenir l'ensemble des éléments, les données brutes de ces études, ce qui fait que ça met une sorte de suspicion sur la mise sur le marché de ces produits. Et donc là, l'ICE demande aussi une remise à plat de ce système d'homologation et de mise sur le marché des pesticides.
Juste pour clarifier, une ICE, c'est quoi? C'est une pétition? C'est plus que ça?
C'est plus qu'une pétition. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu contraignant d'ailleurs pour les personnes qui ont signé. Il faut savoir qu'on a déjà reçu 243 000 signatures au niveau de l'Union européenne, avec alors un gros nombre de signature en Allemagne, d'ailleurs pays qui fait un peu pression pour que le glyphosate continue à être sur le marché, contrairement à la France, qui a plutôt une position intéressante. En France, nous, on doit obtenir 55 500 signatures, on est à 10 000, donc on invite vraiment les gens à signer, mais il faut qu'ils donnent aussi leur numéro de carte d'identité, parce que justement, c'est un caractère très institutionnel, très officiel et très fort. C'est-à-dire que pour pouvoir contrôler que ce ne sont pas de simples pétitions, comme on en a eu d'ailleurs beaucoup sur le glyphosate, on demande un niveau de preuve supplémentaire, qu'on ait bien des résidents et des citoyens de l'Union européenne, et donc c'est vraiment un acte démocratique, une démocratie participative très forte. Quand on va signer cette ICE, on s'implique vraiment dans, on espère en tout cas, une nouvelle législation sur la question des pesticides.
Hervé Kempf.
Aux États-Unis, pendant le même temps, en ce moment même, l'EPA, l'Environmental Protection Agency, le ministère de l'Environnement des États-Unis, a engagé une procédure de réautorisation sur le glyphosate et le Roundup. Et dans le contexte avec le nouveau gouvernement de M. Trump, est-ce que l'autorisation devrait être sans doute accordée, on peut l'imaginer. Quelles conséquences ça aurait sur l'Europe?
Alors c'est vrai que ça risque de donner un mauvais signal, en tout cas pour nos décideurs au niveau européen, malheureusement. Sachant que là, évidemment, on est dans une situation où les États membres ont leur mot à dire. Donc ça complexifie un peu la tâche pour la Commission, qui est parfois un peu sous l'influence des lobbies sur ce sujet-là. Et on voit bien, notamment sur le dossier des perturbateurs endocriniens, traîne des pieds, va pas forcément dans le sens de la protection de la santé et de l'environnement. Et le fait est qu'on est, nous, avec par exemple la France, mais la Suède aussi, pas mal les pays scandinaves ont des positions assez tranchées sur cette question d'exclusion des molécules les plus polluantes ou les plus dangereuses d'un point de vue de santé. Ça nous laisse quand même une marge de manœuvre supplémentaire par rapport aux États-Unis. On ferait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans le cadre d'accords transatlantiques, on le sait hein, en ce moment avec le CETA qui est en cours de négociation. Donc on pourrait imaginer que si ces accords étaient signés, en tout cas, l'Union européenne serait obligée d'inclure sur son marché ces produits chimiques, ce qui serait évidemment une mauvaise nouvelle, sachant que nous, on a une réglementation plutôt protectrice par rapport à celle des États-Unis, par exemple.
Le Roundup est toujours autorisé par le Canada, parce que dans deux jours, en fait, le Parlement européen va discuter et il faut sans doute voter le CETA, l'accord entre l'Europe et le Canada. Est-ce que le Canada autorise le Roundup ?
à ma connaissance, il est toujours autorisé. Le seul pays qui a, en tout cas, le glyphosate, hein, parce que le Roundup, c'est la matière, le produit commercial, donc qui contient à la fois le glyphosate. Pour ce qui est du glyphosate, le Sri Lanka, par exemple, est l'un des pays dans le monde à avoir définitivement interdit l'utilisation du glyphosate sur son territoire. C'était une première. Évidemment, comme on l'a évoqué, le glyphosate et le Roundup sont les herbicides, et c'est l'herbicide et le pesticide le plus vendu au monde. Donc, les enjeux commerciaux autour de cette molécule sont colossales, et vous l'évoquiez, Hervé Kempf, c'est très lié aussi à l'utilisation des OGM qu'on n'a pas aujourd'hui en Union européenne, mais qui pose évidemment cette question de l'introduction ensuite de cette molécule sur le territoire.
Nadine Loverja, est-ce que l'utilisation du Roundup dans nos pays est quand même en train de baisser depuis quand même un certain nombre de publications qui sont sorties depuis les années 2000 ou pas?
Alors, ce qu'on constate et ce qui est sûr, c'est que par exemple sur les usages amateurs, vous savez aujourd'hui depuis le 1er janvier de cette année, il est interdit de vente en vente libre tous les pesticides, pas uniquement le Roundup, tout l'ensemble des pesticides, donc ça complexifie la vente et donc d'ailleurs on a vu nous dans certains supermarchés, pour éviter cette mise sous clé, ils ont carrément retiré les molécules des rayons, ce qui est donc une première avancée qui est intéressante. Et aujourd'hui même les agriculteurs qui sont les premiers utilisateurs de ces molécules se posent beaucoup de questions. Nous on a d'ailleurs des interpellations notamment sur cette question de la nocivité, de l'impact sanitaire des molécules. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs en France une augmentation des surfaces agricoles en bio. Ça veut dire qu'on n'a pas évidemment révolutionné le système, puisqu'on on a vu que les derniers chiffres des Cofito sur les réductions des pesticides n'étaient pas bonnes, même si on a eu une légère baisse, mais qui d'ailleurs un peu en trompe-l'œil. On avance quand même, et en tout cas la prise de conscience est là, ça c'est sûr.
Alors, vous demandez également dans cette ICE à ce que le processus de validation des futurs produits phytosanitaires soit renforcé ou changé. Est-ce que vous avez des propositions particulières ?
Déjà, comme je l'évoquais au début, il sert qu'il faut une meilleure prise en compte de la science, et de la science des revues à comité de lecture, donc celles qui ne sont pas toujours prises en compte, et puis aussi, surtout, une évaluation, notamment sur les produits commerciaux, sur les impacts chroniques. On sait aujourd'hui que ces impacts-là ne sont pas évalués de manière correcte, donc nous, ce qu'on demande, c'est que, et ils ne sont pas évalués du tout, d'ailleurs, la toxicité chronique, elle est faite pour la molécule substance active, mais pas pour le produit formulé. Or là, on a ce qu'on appelle le risque d'effet cocktail, qui est sous et mal évalué. Donc là, on demande aussi une remise à plat de l'évaluation à ce niveau-là.
Chronique veut dire plusieurs années de tests, puisque chronique, on ne peut pas trouver un résultat scientifique en un an ou sur des rats. Il faut répandre le produit.
Tout à fait. Alors, il faut évidemment une évaluation sur plusieurs années, mais elle est déjà commencée. On a déjà quand même certaines études qui ont été menées et du recul. Il faut quand même savoir que les pesticides, en tout cas dans leur usage intensif, sont mis en œuvre depuis les années 50. Donc, on a quand même aujourd'hui un peu de recul et des études de plus en plus importantes sur ce sujet. C'est l'une, finalement, les substances qui sont presque les plus documentées aujourd'hui, quoi.
Merci Nadine Loverja, coordinatrice de l'association Génération Future, et donc une affaire à suivre également sur le site reporter.net, avec M. Enfin, merci. Merci Hervé, à la semaine prochaine, et Axel, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la NASA qui présente son projet pour une mission exploratoire de vie extraterrestre sur Europe, le satellite de Jupiter. Europe qui est un des astres du système solaire les plus susceptibles d'abriter de la vie. On soupçonne cette lune d'abriter justement un océan d'eau salée sous sa croûte glacée. Si la NASA reçoit un feu vert, la sonde décollerait en 2024 avec trois objectifs: chercher les traces de vie, estimer l'habitabilité de la planète et analyser la surface et le sous-sol de Europe en vue de prochaines explorations. Éradiquer le cancer du cerveau avec la rage, c'est l'étonnante solution proposée par des chercheurs d'une université de Corée du Sud qui a testé justement ce procédé sur des souris. En effet, le virus de la rage possède la rare aptitude de passer la barrière hémato-encéphalique qui sépare le sang du système nerveux central et qui bloque l'essentiel des médicaments que l'on voudrait administrer au cerveau. En se servant justement du virus de la rage légèrement modifié comme support, les scientifiques ont réussi à atteindre des cellules cancéreuses du cerveau avec des nanoparticules d'or à l'aide d'un laser. Ils ont ensuite chauffé ces nanoparticules qui cuisent les tissus malsains en détruisant ainsi la tumeur. Et puis les calmars communiquent avec leur peau, c'est ce qu'affirme une étude taïwanaise publiée récemment dans le journal des neurosciences. En étudiant le lobe optique d'un céphalopode avec des stimulations électriques, les neuroscientifiques ont réalisé que cette partie du cerveau leur permettait de changer la couleur et les motifs de leur épiderme. Ils ont ainsi comptabilisé au moins 14 signes différents qu'ils assimilent à une sorte d'alphabet du calmar. Désormais, les chercheurs ont pour objectif de déchiffrer la signification de chacun de ces motifs en étudiant les comportements des animaux face à ces caractères. Allez, nous parlons du bilinguisme, c'est le dossier dans un instant de La Tête au Carré. Ni Hangenang avec Diana Ross à l'instant sur France Inter.
Puisque le bilinguisme est devenu pratiquement une obligation de l'âge adulte, autant commencer le plus tôt possible. C'est ce qu'on a pensé dans deux écoles maternelles bordelaises où une expérience d'enseignement bilingue a été tentée.
En somme, nous leur apprenons une seconde langue maternelle.
En quelques mois, à raison d'une heure par jour, cette méthode semble avoir donné d'excellents résultats.
Yes. Now, you wash the hands. What are you doing?
I am washing.
The yes, what is Corinne doing?
Et tous ces bambins s'expriment maintenant dans la langue de Shakespeare avec un charmant accent bordelais.
What are you holding? I am holding a worm.
Yes, what is Jill holding?
She is a worm.
Yes, and now you cut the line. Cut the line. Say it.
I cut the line in the water.
Yes.
Et bien entendu, on connaît déjà ces classiques. N'en doutons pas, c'est à 3 ans qu'il faut apprendre les langues étrangères.
Voilà, apprendre l'anglais avec ce charmant accent bordelais, c'était en 1966. Et depuis, les études ont fait beaucoup de progrès pour parler de l'enfant bilingue, avec ce livre d'abord, qui est publié chez Odile Jacob, et que vous avez écrit, Ranka Bijeljak-Babi, qui vous êtes notre invité donc cet après-midi. Vous êtes psycholinguiste, maître de conférences à l'Université de Poitiers, et membre du laboratoire de psychologie de la perception au sein de Paris Descartes. Et vous êtes également vice-président de l'association Café Bilingue, avec les auditeurs qui nous rejoignent avec les messages et les questions sur France Inter. Et le mot-clé, l'attaque. Alors, 3 ans, c'est un bon âge pour commencer une langue quand on n'est pas justement déjà baigné naturellement dans deux cultures?
Oui, c'est tout à fait un bon âge. Et puis, l'exemple que vous avez montré, il est tout à fait intéressant. La seule remarque que je ferais, c'est que le bilinguisme, comme dans cet exemple, il est accepté, stimulé, valorisé quand c'est avec l'anglais. Donc, on ouvre beaucoup de structures pour les jeunes enfants, pour apprendre la seconde langue, qui est l'anglais. Mmh. Alors que, pour moi, le bilinguisme, c'est avec toutes les langues, et c'est toutes les langues et tous les bilinguismes qu'il faut valoriser.
C'est ça.
Pour des différentes raisons qu'on peut en discuter.
C'est ça. Vous militez évidemment pour l'ouverture à toutes les langues, évidemment. Hein.
Oui, je milite parce que je pense que, ça les données nous disent que finalement, tout bilinguisme, s'il est bénéfique et qui donne des avantages, il ne concerne pas seulement le bilinguisme avec les langues internationales. Donc, c'est aussi pour un peu valoriser, stimuler les parents qui sont déjà dans cette situation de maintenir, si possible, les deux langues parce que c'est toujours un avantage.
Ouais. Alors, Ranka Bijeljak, dites-nous d'abord quelles sont les études que vous menez, les recherches sur les enfants précoces, alors?
Alors, dans notre laboratoire à Paris Descartes, donc dans notre Baby Lab qu'on appelle, on réalise les études sur le bilinguisme et sur l'acquisition du langage, entre autres dans notre équipe Parole, sur l'acquisition du langage et en particulier, pas en particulier, mais parce qu'il y a beaucoup d'enfants bilingues, sur le bilinguisme aussi précoce, c'est-à-dire chez les enfants au niveau perceptive, quelles sont les étapes, quel est le développement et les sensibilités des enfants qui sont dans un milieu bilingue par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on a déjà étudié chez l'enfant monolingue.
Donc vous avez plein d'enfants à disposition dans ce laboratoire?
Nous avons beaucoup d'enfants, nous avons à peu près entre 1500 et 2000 enfants qui passent dans notre laboratoire. Mm-hmm. Nous avons un contrat avec le CNRS, avec la préfecture, qui nous envoie les adresses, donc nous envoyons des lettres aux parents, et puis ceux qui veulent répondre, ceux qui participent à nos études, et nous sommes très reconnaissants et toujours demandeurs.
Bien sûr.
Que les parents acceptent de venir.
Ouais, quel type de profil alors vous recherchez pour ces enfants? Ça commence à partir de quel âge justement ce baby-là?
Alors, Baby Lab, ça dépend des chercheurs et différentes recherches. Ça commence à peu près vers 5 mois et ça peut aller jusqu'à 3 ans.
Ah oui, déjà 5 mois alors? Vous mettez les enfants en laboratoire et vous les soumettez à un certain nombre de...
Alors, laboratoire, il ne faut pas non plus penser que c'est un endroit très austère. Au contraire, nous avons réussi à créer une ambiance assez conviviale et puis créer juste des petits box pour pouvoir finalement isoler par rapport à ce qui est audition, la situation par rapport au bruit externe, et donc mettre les enfants dans une condition très simple, toujours en présence des parents, pour écouter différents sons et voir quel est leur intérêt pour les différents sons que nous avons choisis par rapport à la question que nous nous posons.
C'est-à-dire qu'à 5 mois, un bébé est déjà capable de discriminer certaines langues?
Alors, non seulement à 5 mois, même plus tôt, et j'ai travaillé pendant longtemps sur la perception du langage chez les enfants, chez les nouveau-nés, et on sait que même à la naissance, les enfants arrivent à faire discriminer les langues, leur langue maternelle par rapport à une langue étrangère.
Mais comment c'est possible? C'est-à-dire que dans le ventre de la mère, déjà, il y a une perception auditive des choses?
Absolument. Enfin, à travers aussi un peu avec à travers le liquide amniotique et puis aussi à travers la osseuse, l'enfant entend la voix de sa mère. Donc, il n'entend évidemment pas précisément tous les aspects du langage, mais il entend surtout la mélodie. Et il peut la différencier. D'abord, il peut différencier à la naissance la voix de sa mère par rapport à la voix d'une autre femme. Et puis aussi, il peut différencier la langue sur l'aspect prosodique, mélodique des langues.
Il entend la voix de son père aussi ou pas?
Alors là,
et des autres membres de la famille?
Oui, bon, bah, ça vient, ça va venir.
Ouais. En tout cas, on n'a pas les outils encore pour le savoir exactement aujourd'hui?
On fait des études, on développe les études dans ce domaine. Mm-hmm. Il est évident que ce n'est pas toujours facile de réaliser des études avec les nouveau-nés par rapport à des enfants plus âgés, parce qu'il faut les mettre en condition, il faut qu'ils soient réveillés, puis il faut que les parents acceptent. Ça se passe dans les maternités, mais il y a plusieurs centres dans le monde et en France aussi qui font des études au niveau comportemental, mais aussi avec l'imagerie cérébrale.
Je disais tout à l'heure dans le sommaire que la moitié de la population était à peu près bilingue aujourd'hui. Est-ce que vous êtes à peu près d'accord?
Tout à fait, plus que la moitié. Ouais. Et puis on pense aussi, avec des statistiques différentes, des différentes ressources, qu'à peu près deux tiers d'enfants dans le monde naissent dans les familles plurilingues ou dans les contextes multilingues. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous devenir bilingues, mais ça veut dire qu'ils sont en présence, soit à la maison, soit à maison extérieure, de plusieurs langues. Donc c'est un contexte qui devient moins exceptionnel, ça veut dire le monolinguisme, et unilinguisme devient plus exceptionnel que finalement que le plurilinguisme.
À quel moment on peut considérer justement qu'un enfant est bilingue véritablement? C'est quand il est capable de passer très facilement d'une langue à l'autre?
Alors ça c'est une très très bonne question, et cette question véritablement bilingue et parfait bilingue, c'est une question qui est difficile à estimer. Je pense que elle n'est pas, c'est pas réel. Il n'y a pas de parfait bilingue, les enfants se développent les deux langues en parallèle, si c'est possible. Mais il est rare, ça existe évidemment, que les deux langues soient présentées de façon équilibrée dans son milieu. Donc il y a toujours à un moment donné une langue qui va dominer l'autre.
C'est pour ça que vous dites qu'il faut aussi prendre beaucoup de distance avec les inquiétudes quant au bilinguisme, parce qu'on n'arrivera jamais à un bilinguisme parfait.
Parfait, exactement, d'une part. Et d'autre part, pour évaluer justement les compétences des enfants, du milieu bilingue, qui quelquefois pose des questions aux enseignants, aux parents. Est-ce qu'ils vont se développer normalement? Est-ce que le petit décalage qu'ils ont au niveau scolaire, au niveau de vocabulaire, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment qui va persévérer, ou est-ce que c'est un passage seulement temporaire par rapport à la situation? C'est important aussi d'évaluer les langues, les deux langues ou plusieurs quand c'est possible, pour ne pas être dans une situation d'une grande inquiétude, et surtout ne pas se mettre dans la situation d'arrêter une langue qui est présente dans la famille et qui fait partie du milieu de l'enfant.
Le bilinguisme parfait, ça n'est pas non plus un bilinguisme où l'accent serait totalement effacé, hein?
Oh oui, ça c'est vraiment, ça c'est une question tout à fait intéressante qui m'intéresse en particulier, évidemment, parce que j'ai un accent malgré tant d'années passées.
Alors, accent serbo-croate,
hein? Oui, accent, je sais pas, quelquefois on dit que c'est pas vraiment l'accent slave, mais c'est un accent qu'on entend très facilement, et après quelques mots on entend l'accent étranger.
Et pourtant vous parlez parfaitement le français.
J'ai fait des efforts. Mais c'est intéressant parce qu'on sait pas exactement à quoi ça correspond complètement. On sait aussi que c'est justement parce que l'enfant est très sensible et très précocement à cette mélodie de la langue, c'est peut-être ces aspects de la langue qui s'impriment premièrement, et puis ensuite au niveau de la production, pour pouvoir à chaque moment dans les deux langues, sans que l'autre langue n'influence pas, pouvoir positionner la langue, trouver la fluidité, trouver exactement les mots, les sons, les catégories sons, ce n'est pas toujours facile.
Et le cerveau s'en charge pour nous, au fond, non?
Il se charge très très bien. Même, vous savez, les interprètes les plus perfectionnés, qui travaillent en permanence entre les deux langues et qui font l'interprétariat, mais ils ont quand même une langue qui domine l'autre, donc ils ont aussi une préférence, parce qu'on ne peut pas garder les deux langues séparément, parce qu'elles ne sont pas séparées dans notre cerveau. Mmh. Elles s'influencent mutuellement. Et maintenant que je vous parle en français, je dois mettre ma langue maternelle. Et finalement, par certains moments, évidemment, elle se met en avant, elle perturbe en quelque sorte mon français.
Oui. Et vos enfants, Ranka Bijeljak, alors, parce qu'ils parlent plus de deux langues?
J'ai deux grandes filles maintenant, elles ont appris le serbo-croate et le français, donc elles sont bilingues, elles ont appris aussi l'anglais ou l'allemand à l'école, donc finalement, ça se passe tout à fait normalement, sans dire que c'était toujours facile, parce que pour maintenir un bilinguisme, qui est uniquement familial par rapport à un milieu qui est unilingue, qui était le français, c'est un grand effort quand même qu'il faut faire pour que ce bilinguisme puisse se maintenir pendant des années.
Ouais.
C'est facile quand les bébés sont là, ça vient spontanément.
C'est ça.
Mais après, quand les enfants acquièrent le français, quand ils viennent de l'école, quand ils parlent la langue de leur savoir, comment maintenir sans couper la communication, sans interdire de parler la langue de l'école à la maison. Donc c'est tout un travail à long terme, de long terme.
Cécile demande par mail, est-ce qu'on voit une différence de performance générale entre les pays bilingues et les pays principalement monolingues ? Alors en fait, de très très grande généralité, hein, parce que véritablement monolingues...
Enfin, il y en a. Enfin, la France est officiellement un pays monolingue, en dehors des langues des citoyens, plus les langues régionales aussi qui sont... alors, est-ce que... Enfin, je ne sais pas comment répondre à cette question. Est-ce que globalement, c'est positif, mais individuellement, ça l'est. Alors, quand c'est bien vu, quand c'est aussi, quand le bilinguisme se développe de façon harmonieuse.
Ben, c'est ce qu'on va voir avec vous dans un instant, justement, au niveau de l'individu, et puis à l'appui, justement, des études scientifiques qui, pour le coup, sont assez précises sur la façon de différencier, justement, les bilingues des monolingues. Vous êtes notre invité, Ranka Bijel-Jacques, avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr.
Ne me change pas, ne me change pas. Laisse-moi chanter on ne transforme pas l'acier en étain Chimère courbée plus de 200 fois les chines, bâtie dans un bois qui ne plie pas. L'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient. Puis soudain, soudain, crac, crac. Ne me change pas, ne me change pas. Laisse-moi chanter, on ne transforme pas, on ne transforme pas, l'acier en étain, ne me change pas, ne me change pas, laisse-moi rêver, on ne troque pas. Petit oiseau, rêche plus mal.
Ne me change pas, 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 ne me change pas,
ne me change pas.
Ne me change pas, et c'est Mes Sparrow sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Ranka Bijel-Jacques Babic, c'est votre livre « L'enfant bilingue de la petite enfance à l'école » qui est publié aux éditions Odile Jacob et c'est le prétexte de notre dossier cet après-midi. Avec beaucoup de messages déjà des auditeurs, alors je vous donne cette première missive pour vous de Élise qui demande si parler dans plusieurs langues à son enfant peut retarder l'apparition du langage. Alors là, on rentre vraiment dans les études scientifiques hein, justement qui ont des choses à nous dire très précises sur ces questions. Alors, les inquiétudes.
Il y a toujours des inquiétudes, enfin pas toujours, mais souvent des parents ils ont des inquiétudes. Il n'y a aucune étude qui montre que c'est le retard du langage pourrait être dû au bilinguisme. Ça ne veut pas dire que les enfants bilingues vont rentrer dans les deux langues au même rythme et de la même façon. Donc il est très important donc, de suivre évidemment leur développement. C'est pour ça que j'ai essayé aussi de publier ce livre pour un peu rassurer les parents et puis aussi les mettre en garde et puis pour suivre un peu le développement de ces enfants. Quelquefois ils parlent très très bien la langue ou dans la maison. Et les enseignants hein, dans l'école ou à la maternelle, ils disent, ils sont mutiques, ils disent pas un mot. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont du retard du langage? Je pense que non. De l'autre côté, quand les enfants, quelquefois, ne parlent pas encore, ne commencent pas à parler à l'âge où on s'attend qu'ils commencent à parler entre 2-3 ans au maximum, enfin à peu près à cette période, quelquefois on dit mais c'est parce qu'il est bilingue, donc il va parler plus tard. Et là aussi, il faut être quand même un peu vigilant pour savoir est-ce que c'est ça comme raison ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes, comme peut-être problèmes d'audition ou d'autres déficits. Donc il faut être un peu vigilant, un peu plus, sans de cela faire un problème, sans augmenter une anxiété et des inquiétudes.
Qui sera évidemment transmise à l'enfant en plus, donc rien n'a gagné de bénéfique, effectivement, si ce n'est observer, effectivement.
Observer, se consulter un peu, et puis aussi stimuler, finalement, comme on fait avec les enfants monolingues, enfin stimuler en parlant, en conversant, et avec d'autres supports, livres, histoires, musique, etc.
Alors, une bonne question d'Élise qui demande, quelle attitude favoriser pour un bon apprentissage de ces langues chez l'enfant? Faut-il un interlocuteur pour une langue particulière?
Alors voilà, ça c'était un principe. Comment s'y prendre? C'était un principe qui était plutôt proposé, enfin qui était suggéré il y a un certain temps, un parent une langue, parce que l'idée c'était que l'enfant va confondre les langues. S'il entend les parents parler souvent les deux langues, ça va être pour lui un chaos linguistique. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est pas du tout le cas, que l'enfant arrive très très bien, même si les parents parle un peu les deux langues, il arrive très très bien les différencier. Et de l'autre côté, ce principe un parent une langue réduit un peu le contact, parce que souvent, si on est très strict dans cette stratégie ou dans ce principe, les parents ne veulent pas répondre à l'enfant lorsqu'il ne parle pas la langue que lui parle. Donc, du coup, ça peut aussi créer des problèmes de communication. Donc, ce qu'on essaie de proposer, c'est d'essayer de trouver des moments où on parle une langue avec son enfant, et puis d'autres moments où on parle d'autres langues, mais peut-être pas forcément tout mélanger à tout moment.
Alors, ce qui est fascinant, et ce que montrent aussi là maintenant très très bien les études, c'est de voir comment le cerveau d'un petit enfant, très tôt, arrive à comprendre qu'il est face à plusieurs langues en même temps. C'est-à-dire qu'on imagine des parents qui pourraient parler deux langues à la fois, l'enfant va comprendre qu'il s'agit bien de deux langues différentes.
Et ça, c'est tout à fait fascinant, et on sait, on a des études au niveau comportemental, qu'il arrive à vraiment à différencier.
À quoi on le voit là?
Par exemple, il y a des études qui montrent, en utilisant la succion non nutritive, qui est donc une façon de mesurer les réactions de l'enfant par rapport aux événements externes. Donc, on peut le conditionner à écouter une langue, et puis ensuite, et à chaque fois quand il tète, on lui présente des phrases dans une langue, et puis ensuite on lui présente l'autre langue. Et puis on regarde est-ce qu'il est il augmente sa succion, est-ce qu'il est de nouveau intéressé par les événements? Et s'il montre ce comportement, cette augmentation de succion, ça veut dire qu'il a montré l'intérêt, donc la différence entre les deux stimulations. Donc on utilise cette technique avec les tout jeunes enfants, et puis d'autres techniques sur la préférence de regard, où on les présente donc dans une pièce, à deux côtés de la pièce, des lumières, et puis chaque fois quand ils regardent vers une lumière, il y a une catégorie de sons qui sont projetés. Et puis on regarde, ensuite on fait passer les sons de l'autre côté, et donc on attire son attention, et en le faisant écouter les différents aspects, différentes phrases ou des mots, etc. Et si on voit qu'il écoute plus d'un côté par rapport à l'autre, c'est pour nous, on conclut qu'il comprend la différence, qu'il préfère peut-être un son. Donc on a différentes techniques qui sont maintenant utilisées dans beaucoup de laboratoires.
Alors, est-ce qu'on a fait des expériences avec des phrases ayant exactement les mêmes tonalités? C'est-à-dire, on imagine deux phrases dans deux langues différentes, mais avec exactement les mêmes tonalités, pour qu'il n'y ait pas justement l'effet sonore qui joue. Est-ce que l'enfant est capable de comprendre qu'il s'agit là de deux langues?
Alors ça dépend aussi justement de l'âge de l'enfant. Quand c'est vraiment des enfants très très jeunes, ils n'ont pas la capacité de distinguer les langues qui appartiennent à une autre classe de langue, qui a une d'autres mélodies de la langue. Mais quand ils sont un peu plus âgés, ils arrivent donc à faire la différence entre la langue maternelle et puis une autre langue. Donc il faut, au début, c'est difficile à l'intérieur d'une même catégorie de langue, et finalement, après, ils arrivent à le faire.
Ranka Bijeljak, on parle de l'enfant donc avec vous, de la petite enfance, mais évidemment, est-ce qu'on peut devenir bilingue à l'âge adulte? On va en tout cas en avoir une illustration avec la comédienne Ingrid Bergman, qui répondait à cette question en 1980 au micro de Bernard Pivot.
Je parlais français en Amérique parce que j'ai déjà appris anglais, allemand quand j'étais enfant. Et j'ai toujours eu une envie, probablement l'amour pour Jeanne d'Arc, et m'a donné cette envie de parler français. Et heureusement, parce que quand j'ai vu M. Rossellini, il ne savait pas anglais. Et comme ça, avec mon français qui n'était pas très bien, mais lui, il parlait très bien le français, Nous avons pu un peu de conversation.
Enfin, vous parlez quand même si bien le français, c'est que vous avez joué en français des pièces.
Oui,
au Théâtre de Paris, vous avez joué Télésympathie.
Oui, mais ça c'était un travail énorme, je travaillais presque un an. Ce que je dis maintenant, même si je fais une erreur, vous pouvez me comprendre, mais on ne peut pas faire des erreurs sur les planches du théâtre, mais je fais.
Vous racontez joliment un petit lapsus que vous avez commis un jour, justement,
oui.
En Pays Sympathie. Vous rappelez?
Oui, je devais dire, il est le champion de l'école. Au lieu de ça, je disais, il est le champignon de l'école. C'est, on a des difficultés comme ça.
Oui, mais quelqu'un
même
vous a applaudi.
Anglais.
Mais les gens vous ont applaudi.
Ah oui, ils ont applaudi beaucoup.
Et vous ajoutez
et quand que... finalement, quand je réussis à dire champion, un très grand applause pour ça aussi.
Voilà, Ingrid Bergman en 1980, Ranka Bijeljak. Alors c'est intéressant, alors au-delà de l'amour pour Jeanne d'Arc, hein, ce qui était son cas, d'apprendre une langue qui n'est pas la sienne à l'âge adulte. Alors est-ce qu'on a les mêmes aptitudes que les enfants et du point de vue de la plasticité cérébrale, est-ce qu'on peut aussi bien apprendre une langue tard?
Alors on a des aptitudes, évidemment, toute personne peut apprendre une seconde langue, il y a tellement des milliers d'exemples dans celui d'Ingrid Bergman, mais c'est possible que finalement cet apprentissage, parce qu'il se fait un peu plus tardivement, ne repose pas peut-être sur les mêmes mécanismes que l'acquisition des langues à l'âge très très précoce. Alors ce qui est intéressant aussi dans son témoignage, d'abord qu'elle dit qu'elle parlait déjà plusieurs langues, donc apprendre une troisième, ça quand même est facilité lorsqu'on est déjà bilingue, et donc aussi que ce côté, comment elle, enfin, les erreurs qu'elle commettait sur la scène étaient souvent aussi bien appréciées, même les petites lapsus qu'elle avait faites.
Ouais.
Donc c'était apprécié. Et de l'autre côté, elle disait aussi que c'était, il fallait pas qu'elle fasse d'erreurs sur le plateau, mais finalement parce qu'on est aussi sévère vis-à-vis de soi-même quand on est bilingue et le milieu n'est pas toujours indulgent, alors que les monolingues aussi font des erreurs et les acteurs se trompent aussi. Donc il y a ce côté aussi un peu le regard de l'autre par rapport à nos compétences linguistiques. Et vous savez que aussi il y a des études qui montrent que les personnes adultes qui parlent avec l'accent et quand ils disent des choses sur la vie ou sur les connaissances, lorsqu'ils ont un accent, ils sont moins crus par les natifs que lorsqu'ils ont pas d'accent. Donc le côté de posséder l'accent, non seulement fait un jugement sur les compétences linguistiques, mais aussi sur les compétences de savoir et de connaissance. Donc ce n'est pas toujours aussi évident, bien que c'est quand même un avantage, n'est-ce pas ?
Médère nous dit sur Facebook, étant d'origine basque, mais ne connaissant pas très bien la langue, j'essaie quand même de parler dans cette langue à mon fils de 15 mois. Cette tentative de transmission de la langue basque, incomplète et donc imparfaite, peut-elle être néfaste au développement de mon enfant ?
Alors, premièrement, il n'est sûrement pas la seule, j'espère, de lui parler le basque, et puis sûrement pas la seule personne qui lui parle. Donc, s'il est en contact avec d'autres locuteurs, il va tout à fait développer normalement son langage. S'il a envie de lui transmettre ce basque qui, pour elle, n'est pas la langue vraiment facile et dominante, c'est un effort, j'imagine, et il faudrait aussi voir à quel point l'enfant va trouver du sens à cet apprentissage. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que l'enfant, quand on essaie de faire des stratégies, des grandes stratégies que les parents ils ont pour l'apprentissage de différentes langues, qu'il faut que ça ait du sens pour l'enfant, qu'il comprenne que ça lui sert aussi à communiquer, pas seulement à avoir des connaissances, des mots ou des apprentissages dans une langue. Parce que la langue véhicule beaucoup plus que le savoir langagier. C'est aussi l'émotion, c'est le contexte, c'est la tradition, c'est la culture qu'il acquiert rapidement, finalement.
D'où, quand même, l'idée d'être dans la bonne maîtrise de la langue qu'on souhaite enseigner à son enfant pour éviter de lui inculquer des erreurs.
D'être dans la spontanéité, parce que vous savez, on peut être aussi parent, être soi-même bilingue. Donc, on n'est pas parfait, comme on avait dit, dans chacune des langues. Et on peut, selon le contexte, vouloir lui transmettre une de ces langues. Donc, on n'est pas parfait. Donc, ça veut dire qu'on va être toujours un peu moins, entre guillemets, bon qu'un monolingue. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il faut se priver de lui transmettre cette langue?
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion et toujours les messages pour vous sur le site de La Tête au Carré.
ينا ينورني سنجي في السنة تبار سكوز تران دغش النوان ديني ريسا استانا قام دكتي فوت مي ديوان لتا سني دلاد الشكوى ينا ينورني سنجي في السنة تبار سكوز تران دغش النوان
موسيقى nästan har om. Mycket till foten med din vän. Tussan är du Maria man. Jag har dagt om var en länder fördel. Tussan är det här sig säng. Var är det där du är i din kar. Tiden är det så stannar på. Mycket till foten med din vän. Leta sin i till leda chakwa. Aina igen var en i sin gej. Tussan är det här. Så kåsut varandra var sitt navn.
C'est Tina Riouen sur France Inter.
Au début, quand on s'est rencontrés, on se parlait en anglais parce que Katia ne parlait pas portugais et moi, je ne parlais pas russe. Mais comme on a commencé à apprendre la langue de l'autre, on s'est mis à se parler dans nos langues maternelles. Et aujourd'hui, c'est un réflexe. Je lui parle en portugais, elle me répond en russe et c'est comme ça qu'on communique. Et on comprend tout ce que dit l'autre.
Les enfants du couple sont trilingues. Une particularité qui modifie la façon dont fonctionne le cerveau et stimule la flexibilité de la pensée, d'après la chercheuse canadienne Hélène Bialystok, spécialiste de la question. Plus ils arbitrent entre les langues pour s'exprimer, plus ils développent leur capacité à résoudre des problèmes.
Parce que vu qu'on a les parents internationaux, on ne peut pas nous dire « je suis française, je suis russe, je suis portugaise ». On est les trois, voilà.
Et moi, je me sens plus française puisque...
Je me sens plus français parce que je suis née en France et j'ai passé la plupart de mon temps dans des écoles françaises. Je crois que je suis plus français. Je sais que je suis aussi portugais et russe, mais je me sens plus français.
Voilà, reportage qui avait été diffusé sur Euronews, sur ces familles trilingues, tout comme la vôtre, Ranka Bijeljak, hein, puisque vos enfants sont trilingues aussi.
Enfin, ils sont surtout bilingues, et puis là, ils ont une langue internationale qu'ils ont appris à l'école. Oui,
donc, ils arrivent à jongler à peu près avec les langues, cet ouvrage donc, que vous publiez et qui paraît chez Odile Jacob. Alors, les études, là aussi, sont intéressantes. D'ailleurs, la chercheuse qui est citée dans ce reportage l'est aussi dans votre ouvrage, évidemment, parce qu'elle fait référence dans ce domaine. Sur la richesse du vocabulaire, justement, des enfants, allons plus loin dans les études qui sont menées. Ça fait l'objet des inquiétudes des enseignants.
Oui, ça fait surtout dans la petite enfance ou les enfants, on sait qu'il faut qu'ils aient à un moment donné un vocabulaire, une taille de vocabulaire qui leur permet ensuite de se développer dans le langage, de combiner les mots, de créer des phrases. Et c'est vrai que c'est un signe si l'enfant n'a pas assez de mots, c'est un signe d'un petit décalage ou peut-être un petit retard. Alors si l'enfant bilingue à l'école, quand c'est parlé sa langue maternelle, un vocabulaire qui est moins fourni, les enseignants peuvent s'inquiéter. C'est là où ils souvent ils disent aux parents, arrêtez votre langue, l'enfant ne pourra pas se développer bien dans la langue de l'école, par exemple le français. Et finalement, Bialystok et d'autres chercheurs ont montré que finalement, le vocabulaire total des deux langues, il est tout à fait de bonne taille pour l'âge de l'enfant, c'est tout à fait suffisant pour qu'il puisse se développer. En plus, ils ont montré aussi que vers 5 ans, lorsque l'enfant va déjà à l'école, son vocabulaire quotidien de maison, il peut être inférieur dans la langue de l'école, mais sans vocabulaire de l'école, il est de même niveau au niveau de la taille et de la richesse donc que les enfants monolingues. Ouais. Donc le vocabulaire qu'il va utiliser finalement pour les connaissances et pour son développement scolaire est tout à fait se développe au même moment, de même niveau que les enfants monolingues.
Mais vous rappelez vraiment à quel point c'est important de ne pas chercher une symétrie parfaite entre deux langues, hein, parce qu'évidemment il y aura toujours des différences.
Il y a des différences
de niveau
et puis aussi, comme quand
transmission. Voilà.
Et quand c'est la langue un peu plus faible pour l'enfant qui rentre dans l'école de cette langue, il faut aussi lui permettre de donner plus de temps, ne pas toujours le comparer aux enfants monolingues, lui donner de temps pour aussi considérer que c'est un processus dynamique. Dynamique, ça veut dire aussi qu'il y aura aussi des montées, puis des descentes. Ça dépend aussi de l'entourage, de la taille, enfin de l'exposition à la langue. Et c'est ça où c'est important que finalement, et l'école et les parents supportent et suivent et apportent tous les éléments pour que ça puisse se développer de façon harmonieuse.
Marie nous dit, quand mon fils était bébé, je lui ai chanté une chanson en anglais. Il a pleuré, ne comprenait pas ce que je disais. À quel âge faudrait-il commencer à parler dans une autre langue à son enfant? D'abord, est-ce qu'il a pleuré parce qu'elle chantait en anglais?
Ou est-ce qu'elle chantait mal?
C'est ça. Marie, excusez-nous.
Ce qui était mon cas. Mes enfants m'ont dit, arrête de chanter.
Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, voilà. Mais dans le bénéfice du doute, voilà, on ne sait pas.
C'est ça. Et puis en plus, ça dépend si c'est sa langue maternelle. Après, pourquoi l'enfant, il a pleuré, ça, c'est une question. Mais à quel moment? Je veux dire, à un moment où on considère que c'est important de lui transmettre quelque chose et on sent, on a l'idée. J'ai écouté le témoignage d'une dame, une mère russe, qui a donc appris le français, qui vit en France depuis 20 ans, elle parle français. Et donc, quand le premier enfant est arrivé, elle voulait continuer à parler le français. Et elle a dit, à la naissance, je ne pouvais pas prononcer un mot de français. C'est le russe qui est arrivé, mais spontanément. Et finalement, comme son mari aussi parlait le russe, donc ils ont commencé à utiliser les deux langues et de parler avec sa fille en russe.
Eh bien, une autre Marie nous dit, mon fils parlait italien de 3 à 6 ans, en plus du français, sa langue maternelle. Et puis, nous sommes rentrés en France, il a oublié l'italien. A-t-il vraiment oublié cette langue?
Alors ça, c'est la grande question et pour laquelle on a des réponses aussi de témoignages comme ça, où effectivement les enfants oublient la langue parce qu'ils n'ont pas pratiqué, parce que le contexte ne permettait pas. Alors est-ce que là vraiment, donc il y a des études qui montrent qu'effectivement même au niveau des traces à l'imagerie cérébrale, quelquefois il n'y a plus de traces de la langue.
Ah, on a gommé. Le cerveau a gommé.
On a effacé, passé un peu. Ouais. Ou alors, peut-être qu'il y a des traces qui restent, que la technique encore ne permet pas de montrer. Donc, c'est une question tout à fait intéressante, surtout qu'elle est un peu en contradiction avec le fait que plus tôt on apprend quelque chose, mieux c'est.
Ouais.
Mais ça veut dire aussi qu'il faut vraiment, au niveau des langues, il faut l'entretenir, il faut que ça soit vraiment maintenu dans le milieu en permanence.
Et le cerveau a cette capacité d'oubli des choses dont il n'a pas besoin aussi, alors visiblement. Hein.
C'est possible, parce que bon, il se réorganise, il a une plasticité qui va dans les deux sens. Donc si on stimule plus, certains circuits ne se développent pas.
Ouais. Françoise nous dit, étant polonaise, je parle dans cette langue à mon fils, cependant il ne me répond qu'en français, alors qu'il communique en polonais avec ma famille justement en Pologne. Est-ce que je dois le laisser faire? Demande cette auditrice.
Moi, je pense que oui, tout en continuant de lui parler en polonais comme elle le fait, et le laisser aussi lui parler en français, peut-être aussi de temps en temps traduire ce qu'il dit, un peu le stimuler pour qu'il peut-être éventuellement réponde quelquefois. Ouais. Mais s'il continue d'utiliser cette langue dans le contexte polonais, c'est bon.
Allez, on a un dernier sujet à vous faire entendre, justement, Ranka Bijel-Jak, sur les inquiétudes liées au bilinguisme.
Le risque des enfants bilingues, c'est que si jamais les bases dans une de leurs langues maternelles n'est pas stable, ça va se répercuter sur la deuxième langue maternelle automatiquement par des confusions phonétiques. On retrouve des mots en français à l'écrit, au niveau de l'écrit, de l'expression écrite. Il y a des mots en français, des fois ils essayent de franciser aussi les mots.
Même les enfants bilingues doivent avoir une langue forte parce que sinon ils deviennent semi-lingues et n'en maîtrisent aucune parfaitement.
Les études prouvent que souvent, même des enfants bilingues de naissance, entre guillemets, ont toujours une langue plus forte sur laquelle effectivement ils peuvent s'appuyer, et que si on n'a pas cette langue forte, ça devient beaucoup plus compliqué pour faire les apprentissages, puisque au lieu de se servir d'une langue sur l'autre, on va plutôt mélanger une langue avec l'autre, et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix, quoi.
Ranka Bijel-Jak, alors, sur ces inquiétudes, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit là dans le sujet?
En partie, parce que c'est vrai, mélanger les langues, c'est pas idéal, mais c'est pas du tout un passage définitif. C'est un passage, c'est pas une compétence que l'enfant va garder tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, on voit très bien les adultes quand ils parlent avec les monolingues, qu'ils soient bilingues, ils ne mélangent pas les langues. Je n'ai pas parlé avec vous en introduisant des mots sébo-croates. Donc, on arrive tout à fait à partager. Alors, ensuite, à l'écrit, c'est vrai que...
Alors, qu'est-ce que ça montre, là, le passage à l'écrit?
Le passage à l'écrit a... un tas de cas de figure, évidemment. Et si c'est toujours mieux d'apprendre à écrire dans la langue dominante. dans la langue où l'enfant il est très fort. Mais c'est pas toujours le cas, et c'est pas le cas justement des enfants qui viennent d'ailleurs et qui rentrent à l'école, par exemple en France, ils vont apprendre dans la seconde langue, dans la langue plus faible. Et c'est là où l'effort de l'école doit être important pour les mettre à niveau, pour leur permettre aussi de transférer leurs compétences qu'ils ont déjà dans la langue d'origine, dans la seconde langue. Ça veut dire tout ce qui est aussi passage de l'oral au graphème, tout ce qui est aussi le sens de l'écriture, tout ce qui est donc les compétences un peu métaphonologiques, métalinguistiques que tous les enfants développent au moment de passage à l'écrit. Ouais. Donc c'est un effort quand même, mais qui n'est pas du tout inutile et qui finalement les enfants arrivent très rapidement à rattraper.
Alors sur les avantages très nets aujourd'hui, confirmés par les études scientifiques, on parlait des maladies neurodégénératives.
Oh, ça c'est chez les adultes, troisième, quatrième âge.
Ça voudrait dire quoi? Que maîtriser deux langues permettrait de repousser
En moyenne, avec les populations qui étaient étudiées, on a montré que quand même, on peut repousser l'apparition des maladies neurodégénératives de 4 ou 5 ans. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Alors, c'est lié au bilinguisme, c'est peut-être lié aussi à d'autres activités intellectuelles qu'on n'a peut-être pas suffisamment étudiées, mais c'est toujours un avantage.
Grâce à la stimulation du cerveau, toujours le même principe.
Oui, c'est ça. Enfin, à ma connaissance, on ne connaît pas les détails, mais on sait que ça arrive et en moyenne, ça se produit de cette façon-là.
Sur l'attention, sur la concentration, là aussi, il y a des études qui montrent que le bilinguisme est un avantage.
C'est un avantage parce que finalement, de fait, quand on doit toujours passer d'une langue à l'autre, l'enfant finalement spontanément développe des capacités d'inhiber certaines compétences et puis activer d'autres et puis aussi d'être attentif à des changements de l'environnement qui sont pas seulement d'ordre linguistique, mais aussi tout ce qui se passe dans l'environnement. Ils ont plus tendance à être sensibles et de faire attention.
Flexibilité mentale, ouverture d'esprit, bah décidément, on va vite apprendre des langues en plus, là, non?
Bah écoutez, je pense que oui, que de toute façon, c'est toujours éjouissif, intéressant, pas toujours facile, ça dépend de l'âge, et pas toujours bien accepté, comme on a vu, quand on est locuteur de certaines langues mineures, ou quand on a un accent fort, on n'est pas toujours très bien vu, mais c'est quand même au niveau personnel et puis aussi sociétal, c'est quand même un avantage. Et il faut motiver les gens et les soutenir quand ils se lancent dans cette aventure.
Rêver dans une langue étrangère, demande Fabien, est-ce que c'est réellement un indice de bilinguisme?
Grande question, je n'ai pas de réponse parce que je pense en tant que bilingue, je sais de temps en temps que j'ai rêvé que le texte était dans une autre langue, mais c'est finalement on ne sait pas. Ouais. Est-ce qu'on sait dans quelle langue? Est-ce qu'il y a le texte, enfin le parler dans le rêve?
Ranka Bijeljak-Babik, ce livre, L'enfant bilingue de la petite enfance à l'école, vient de paraître et c'est l'un des très rares ouvrages en français sur la question. Ça manquait beaucoup et vous comblez ce manque aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu. Je vous présente un homme parfaitement franco-italien, c'est Fabrice Drouel qui lui aussi maîtrise le bilinguisme. Affaire sensible, Fabrice, on parlera de quoi avec vous dans quelques instants?
L'affaire Simone Weber, la diabolique de Nancy, accusée d'avoir assassiné et découpé son ex-amant à la tronçonneuse. Oui, je sais, c'est pas, dans la délicatesse.
Ah non, mais on aime bien, on aime bien.
Écoutez, les faits ne sont pas délicats parfois, on ne va pas les changer.
Et la transition est difficile.
Difficile, difficile. Et on en parlera avec notre invitée Anne-Sophie Martin, auteure du livre « Crimes de femmes » et qui a interviewé Simone Weber il y a quelques années.
Et ce sera dans un instant, tout à l'heure.